Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Voilà, nous y sommes à notre rendez-vous
avec notre émission du mouvement Action Justice. Donc, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus du pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc, dénoncer les abus du pouvoir et les injustices est une étape clé qui nous amène directement à combattre les abuseurs de notre système, combattre ceux qui interprètent les lois selon leurs intérêts et leurs avantages. Dénoncer ceux qui profitent de la fragilité des citoyens, qui a légué ses droits et ses libertés aux mains du pouvoir pour ouvrir, ou plutôt pour couvrir sa dignité humaine, alors que le pouvoir demeure toujours une force venant principalement du peuple. Dénoncer, ça réveille des consciences, redonne de l'espoir, souffle de nouvelle énergie et ouvre surtout des horizons à des générations qui se bousculent devant un point de départ. Mais il ne faut pas attendre des mois, des années, des siècles pour le faire. Dénoncer est un devoir qui vise pas uniquement des journalistes enquêteurs qui sont des purs fonctionnaires en quête de célébrité médiatique, mais vous, chers citoyens, qui sont les vrais acteurs de cette société. Vous pouvez ramener de l'ordre, établir le désordre. Vous êtes la seule force. Si elle est unie, rien ne pourrait la faire reculer d'un centimètre. Donc n'attendez pas qu'un journaliste vienne de loin pour vous libérer de cette prise du silence ou pour vous apprendre que la dénonciation des abuseurs du pouvoir est un premier pas. Une main forte qui replace les choses à leur place. Si nos opinions sont repoussées et notre voix est étouffée au point le plus banal qui peut exister, c'est parce que nous ignorons notre force et notre pouvoir, nous le peuple, une fois rassemblés. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, un militant d'Humage, un mouvement indépendant en défense des droits de la personne, mandaté pour faire la surveillance civile des institutions judiciaires. Je vous invite fortement de nous rejoindre à la fin de cette émission. Appelez-nous si vous souhaitez participer. Dénonçons ensemble les abuseurs et les injustices. Nous sommes là pour vous céder les ondes de cette station afin que votre devoir de citoyen soit accompli. Donc, 514-273-4302, je répète, 514-273-4302, ou bien nous écrire à info@mage-quebec.com. info@mage-quebec.com. Donc le sommet populaire Échec à la guerre est aujourd'hui derrière nous. Très peu de journalistes et de reporters se sont intéressés à ce contre-courant fortement légitime, sinon le quotidien Le Devoir qui a tracé quelques lignes pour tourner la page. C'est une déception à notre avis, mais pour le porte-parole du comité Échec à la guerre, M. Raymond Legault, militant engagé depuis sa jeunesse, n'est pas d'avis. Donc nous l'avons rencontré cette semaine et nous avons discuté avec lui autour de ce sujet. Il demeure au poste, optimiste comme jamais. Restez avec nous, chères auditrices, chers auditeurs. Nous revenons avec notre sujet après notre thème musical.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la une. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Rebonjour, chère auditrice, cher auditeur. Donc, il est vrai que le Québec traverse une période assez difficile, d'abord à l'échelle politique, où le gouvernement actuel a perdu toute sa crédibilité. Donc, les derniers sondages montrent d'ailleurs que 81% des Québécois n'ont simplement pas confiance au Premier ministre Jean Charest. Devant cette crise majeure qui se complique par la continuité des scandales, notre regard de citoyen éventuellement est préoccupé par ces scènes internes, laissant parfois la politique étrangère courir à sa guise. N'oubliez pas que le Canada est en guerre. Nous sommes, chers auditrices, chers auditeurs, en guerre. N'est-ce pas que par l'argent des contribuables, votre argent, que cette guerre est alimentée chaque jour. Une guerre de front de combat. Une vraie guerre où, à chaque instant, l'un de nos soldats est exposé à la mort. Sans de la mort des civils, des centaines et des centaines de morts. Bref, la guerre est synonyme de destruction et de noirceur. Et nous l'avons souligné à maintes occasions que le peuple est contre ce déploiement militaire canadien, précisément en Afghanistan. Donc les Afghans eux-mêmes ne désirent pas la présence étrangère sur leur sol. Ils ont compris, voilà pourquoi, ils préfèrent mourir que d'être envahis par d'autres nations. La libération vient du peuple lui-même, c'est la règle de toujours. Mais ce que nous inquiète, et encore plus grave, c'est la détérioration vertigineuse de la démocratie chez nous. Autant que peuple, nous n'avons ni le premier et encore moins le dernier mot. Une poignée de décideurs que nous avons mis au pouvoir vont à l'encontre de notre volonté et pourtant nous sommes des milliers et des milliers de citoyens qui disent non à la guerre. Une guerre déclarée perdante d'avance parce qu'elle est injuste et indésirable. Nous devons plutôt s'occuper de notre ménage. Notre cour est en désordre, donc elle fait honte de plus en plus et l'image de notre pays à l'étranger n'inspire pas confiance non plus. Les pouvoirs publics éprouvent de graves difficultés financières. Le chômage, marque de points de revenus et les revenus de l'État qui va aux services sociaux comme la santé, l'éducation diminuent chaque année et le gouvernement canadien augmente considérablement les dépenses militaires et prévoit même dépenser à ce chapitre 490 milliards d'ici 20 ans. En tout ça, est-ce qu'il y a-t-il un espoir derrière tout ça? En attendant d'abord la chute de ces gouvernements, chères auditrices, chers auditeurs, continuons à lutter sans relâche, malgré les contraintes et les difficultés. C'est notre devoir de citoyens de défendre nos principes les plus chers. Dans cette voie, nous avons plutôt insisté de rencontrer le porte-parole du comité Échec à la guerre, M. Raymond Legault, après la tenue du sommet, et nous avons voulu connaître la fin de ce sommet, longtemps préparé, où des centaines et des centaines d'heures étaient investies. Pourquoi la presse ne s'est pas réellement intéressée, ou bien très très peu? Ben écoutez, restez avec nous, on va faire une petite pause musicale, et nous allons revenir pour écouter cet entretien qu'on avait eu avec M. Legault.
Dans les rues, le bon Dieu dans ma poche. Je marche dans la grande ville et je n'ai plus froid. La terre est mon amie et souvent je dors dessus. Je marche dans les rues, le bon Dieu dans ma poche. Je marche dans la grande ville et je n'ai plus froid. La terre est mon amie et souvent je dors dessus. Je marche dans les rues, le bon Dieu dans ma poche. Je marche dans la grande ville et je n'ai plus froid. La terre est mon amie. Souvent je dors dessus. Je marche dans les rues, le bon Dieu dans ma poche. Je marche dans la grande ville et je n'ai plus froid. La terre est mon amie et souvent je dors dessus. Je marche dans les rues, je marche dans la grande ville et je n'ai plus froid. La terre est mon amie et souvent je dors dessus. Je marche dans les rues, le bon Dieu dans ma poche. Je marche dans la grande ville et je n'ai plus froid. La terre est mon ami, et souvent je dors dessus, et je m'ennuie de mon pays.
Voilà, bonjour Monsieur Raymond Legault, vous êtes professeur d'informatique au Cégep Antique depuis environ une douzaine d'années et vous êtes porte-parole du comité Échec à la guerre. Peut-être la première question que je vais vous poser, pourquoi de votre part cet engagement contre le déploiement de la guerre ou de l'armée canadienne en Afghanistan?
De façon générale, je dirais que moi j'ai toujours été, je dirais particulièrement soucieux de justice sociale, et pas seulement ici, mais au niveau planétaire.
International.
Oui, dès ma jeune enfance, je me rappelle d'avoir vu des reportages sur les famines en Inde, ensuite en Éthiopie, tout ça. Puis bon,
les injustices un petit peu.
Oui, tout à fait, ça nous touche beaucoup. Ouais. Sur spécifiquement la question de la guerre, je veux dire, je me suis intéressé au Proche-Orient et au Moyen-Orient depuis au moins une vingtaine d'années. J'ai fait partie du comité sur la Palestine à l'époque de la première intifada, donc on parle de la fin des années 80. Oui. Et à l'Irak plus récemment, mais je dis plus récemment, mais ça fait une douzaine d'années peut-être, à l'époque des sanctions contre l'Irak. Et on avait fait un voyage en Irak.
Ah, vous avez fait un voyage en Irak?
En 2000, avec Sven Robinson, un député canadien, Françoise David, qui à l'époque était président de la Fédération des femmes du Québec, des gens des milieux syndicaux.
Vous étiez là-bas pour constater, ou vous étiez
comme... On est allé là-bas parce que les sanctions contre l'Irak n'étaient pas du tout couvertes ici dans les médias. Les gens n'avaient aucune idée de l'impact. Nous, on avait vu, entre autres, des déclarations de Madeleine Albright qui disait que 500 000 enfants, c'était un prix justifiable à payer pour s'opposer à Saddam Hussein, parce que les sanctions, selon l'UNICEF, avaient fait plus de 500 000 victimes, des enfants d'en bas de moins de 5 ans, en l'espace de 8 ans. Et les sanctions continuaient de tuer des enfants au rythme de plusieurs milliers par mois.
Donc vous, c'était comme société civile sur le lieu?
Tout à fait, tout à fait. On était un petit groupe qui s'appelait Objection de conscience à l'époque. Et on a voulu qu'il en soit question. Et donc, on s'est dit, si on va là-bas et qu'on revient, on est des inconnus, les médias vont porter aucune attention à ce qu'on va leur raconter. Donc, on va essayer d'amener là-bas un député, des gens qui sont porte-parole de grands organismes, etc. Et au retour, on va faire un rapport. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait un rapport. On est allé rencontrer le ministère des Affaires étrangères. On est allé faire différentes représentations. Mais bref, je me suis intéressé à l'Irak le départ des sanctions. Alors, quand il y a eu, en 2002, la poussée de Bush et compagnie pour envahir l'Irak, préparer cette invasion-là et tout, on a mis sur pied le collectif Échec à la guerre. Donc, au départ, ça n'avait même pas rapport avec l'Afghanistan. Oui. C'était en rapport avec l'invasion de l'Irak. Ça a soulevé la planète au complet, et nous y compris. On a organisé à ce moment-là des manifestations en 2003 à Montréal qui ont regroupé, la plus grande a regroupé autour de 250 000 personnes. C'était la plus grande manifestation dans l'histoire du Québec, et ça portait pas sur un sujet québécois, ça portait sur un sujet mondial, comme beaucoup d'autres manifestations à travers le monde. Donc, on a fondé le collectif à ce moment-là, et on a par la suite décidé qu'on s'intéressait de façon plus large à la participation du Canada aux guerres dans le monde. On a eu un virage assez guerrier de la politique étrangère canadienne, pas au moment de la guerre contre l'Irak comme tel, mais à partir de 2005, quand les troupes canadiennes ont été déployées à Kandahar, c'était vraiment la fin de toute prétention du Canada à vouloir être tout simplement des forces de maintien de la paix dans le monde. Donc, je dirais que mon engagement remonte à très loin si on parle de justice en général, puis sur les questions de l'Afghanistan, de la guerre, de l'Irak, ça remonte à une douzaine d'années.
Maintenant, peut-être je vous poserai une seconde question. Donc, le sommet Échec à la guerre vient de se terminer. Et selon vous, est-ce que les médias se sont intéressés à vos revendications? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi?
Les médias s'y sont très peu intéressés, d'une manière générale.
À votre avis,
avant le sommet, on a eu à peu près aucun contact avec les médias, même si on a fait des communiqués de presse, des démarches. On a engager une petite boîte de communication pour s'occuper de ça, qu'ils ont déjà, donc, eux, des contacts dans les médias et
Vous voulez nous dire que les médias, ils sont subjectés directement, refusés, un refus carré comme ça, carrément?
Vous savez, c'est toujours un peu embêtant de conclure à ce sujet-là. Ouais. Il y a, en ce moment, toute une panoplie de scandales, hein, de jour en jour au niveau de la politique provinciale, de l'industrie de la construction, les contrats, les tentatives de corruption, etc., etc. Donc, à chaque jour, il y a des nouvelles révélations. L'ensemble des médias sont attirés par ça comme, je sais pas moi, le miel peut attirer les ours, quoi. Et donc, il y a une certaine exclusivité qui se crée souvent de facto quand il y a des sujets importants. Et on a toujours cette crainte-là, quand on organise un événement, de ne pas tomber en même temps que quelque chose qui, tout à coup, attire toute l'attention. Donc, il y a ce facteur-là, mais il n'y a pas seulement ce facteur-là. De façon générale, les médias ont montré beaucoup d'attention au point de vue du gouvernement. On relaie souvent le point de vue du premier ministre, du ministre de la Défense, du ministre des Affaires étrangères, etc. Quand il y a des familles de soldats canadiens qui ont un enfant qui meurt là-bas, on interviewe la famille, on réinterviewe les officiels canadiens qui répètent encore le même message, à tel point que si on n'écoute que la télé, on aurait l'impression qu'à peu près tout le monde est favorable à la guerre et qu'il n'y a pas vraiment d'opposition, alors que les sondages disent qu'il y a 70% exactement
des Québécois sont contre. C'est-à-dire, si les médias, ils n'ont pas accepté ou ils n'ont pas pris le temps de couvrir ce sommet-là, pensez-vous que c'est indirectement, c'est un rejet d'opinion publique?
C'est, à quelque part, des décisions qui se prennent au niveau des affectateurs. Dans les salles de rédaction, dans les bureaux de nouvelles, les affectateurs décident à chaque matin où vont les journalistes, quelles histoires ils vont couvrir, etc. Il y a des journalistes indépendants, évidemment, qui, eux, décident un peu de leur propre affectation, mais en même temps, ils veulent vendre leur papier, ils veulent vendre leur reportage. Ils vont pas nécessairement, eux aussi, se consacrer à des sujets qui risquent d'être refusés par les médias. Donc, c'est clair que les décisions n'ont pas été d'affecter des journalistes. À notre conférence de presse le dimanche matin, il y avait une journaliste de 24 heures, le journal qui est distribué gratuitement au métro, et il y avait une caméra du Canal V et une caméra de Radio-Canada. Il y a eu apparemment un genre de petit mini-reportage à V aux nouvelles à 5 heures. Et au niveau de la caméra de Radio-Canada, les images tournées n'ont pas servi à rien du tout. Et il n'y avait pas de journaliste sur place. Des fois, ils fabriquent une petite histoire à partir des documents et des images. Mais là, ils n'ont même pas fait ça. Alors, ce qu'il y a eu, c'est une entrevue avec la presse canadienne. La presse canadienne rédige des dépêches qui sont souvent reprises dans plusieurs journaux, des petits items de nouvelles assez minuscules. Et ça a été repris par Le Devoir, par le journal Métro, par un journal francophone de Toronto. Mais c'est, bon, une colonne sur à peu près 10 lignes, là, 10-12 lignes, et c'est tout. C'est une mini-nouvelle, si
on peut dire. J'imagine de votre côté aussi, vous avez essayé d'envoyer à gauche, à droite, vos informations aussi.
Il y a un communiqué de presse qui a été mis avant la conférence de presse et aussi après la conférence de presse. Ça s'en va par Canada Newswire, Telbec, là, ça s'en va à toutes les salles de nouvelles partout. Donc, c'est pas faute d'être informé que les médias ne se déplacent pas. La coïncidence avec le sommet de Lisbonne, on pensait que ça nous attirait davantage d'attention. Entre autres, parfois, ce qui se fait, c'est que l'article principal traite du sommet, par exemple, de l'OTAN, et tout à fait, à la fin, on dit par ailleurs, au Québec, il y a eu ceci. Donc, on a même formulé un peu notre communiqué final pour essayer de contribuer à aller dans ce sens-là. Mais les reportages qu'il y a eu sur le sommet à l'OTAN ne mentionnaient pas le sommet anti-guerre ici à Montréal.
Si vous voulez, on va faire une pause musicale et on va revenir avec vous.
D'accord.
Toi qui me croyais vider son cœur, ton visage je le connais par cœur. J'ai pas osé car j'ai eu peur de le dire, m'aurait porté malheur. T'es mon pire et t'es mon meilleur. Notre histoire est assez amère. Je porte le poids de mes
Chers auditrices, chers auditeurs, donc nous allons avec une annonce publicitaire et nous continuerons l'entrevue avec M. Raymond Legault dans quelques instants.
Vous rêvez de palmiers, de chaises longues? Ne cherchez plus! L'ATSA vous invite à son événement tout inclus de l'état d'urgence ultime édition. Du 25 au 28 novembre, 24 heures sur 24, sur la place Émilie-Gamelin, métro Berry, profitez de nos forfaits artistiques, dont une soirée avec les Sept Doigts de la Main et l'Orchestre d'Hommes Orchestres. Gentils auditeurs, rejoignez-nous sur www.atsa.qc.ca et sur Facebook. Du 25 au 28 novembre, nos gentils organisateurs vous attendent avec des activités gratuites dont personne ne sera exclu.
Du 26 au 28 novembre, au Stade olympique, c'est le Salon national des festivités de Noël. Loisirs, décorations, alimentation et bien sûr, idées cadeaux vous y attendent. On vous invite plus particulièrement à participer à un tirage d'un forfait très intéressant comprenant 3 nuitées à l'auberge Espa Beau Rêve, une journée de motoneige offerte par Aventure Plein Air, une excursion en traîneau à chien, gracieuseté de Skidoo, 2 soupers pour 2 au restaurant Braise et Futé. tirer, le tout d'une valeur de 1 500 $. Pour participer à ce tirage, rendez-vous tout simplement au kiosque 369, soit celui de l'Auberge Beau Rêve de Sainte-Adèle et ses partenaires. Sur place, Auberge Beau Rêve vous donnera d'ailleurs un petit présent. Demandez-le. Informez-vous aussi sur notre idée cadeau très originale, un forfait douceur à l'Auberge Beau Rêve à un prix qui fait craquer le Père Noël. Rendez-vous donc au kiosque de l'Auberge Beau Rêve au Stade Olympique du 26 au 28 novembre.
Vous êtes à la recherche d'exotisme et de bien-être. La 203 vous sert un savoureux cocktail musical. Passez votre commande en consultant notre programmation au www.radiocentreville.com. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Donc voilà, rebonjour Monsieur Legault. Donc on a dit que le sommet échec à la guerre s'est concrétisé par une déclaration contre la guerre et le militarisme. Nous imaginons qu'elle est transmise au gouvernement. Est-ce que vous attendez une réponse et de quelle manière?
D'abord, on ne l'a pas encore transmise au gouvernement. On a l'intention éventuellement de l'envoyer à tous les députés de tous les partis politiques qui siègent à Ottawa. On a même l'intention de l'envoyer aux officiels du parti au pouvoir au Québec, le Parti libéral et tout ça, parce que le Québec prend à l'occasion certaines décisions qui vont dans le sens de soutenir la guerre, nommer des autoroutes à la mémoire de soldats canadiens morts à la guerre en Afghanistan, etc., etc. Il y a des villes au Québec qui font des ententes avec les contingents militaires pour des échanges de drapeaux entre la ville et tout ça. Donc, il y a des manifestations au Québec d'appui à la guerre et on veut faire savoir qu'un très grand nombre d'organismes, en fait, en ce moment, il y a pas loin de 80 organismes qui ont signé cette déclaration-là. Cette déclaration-là...
Mais c'est ça, je veux savoir les grandes lignes de cette déclaration.
Ces grandes lignes, c'est d'abord de renommer un certain nombre de choses qui ont indigné la population canadienne dans les dernières années, que ce soit le fait que le Parlement canadien a prolongé l'intervention canadienne à l'encontre de la volonté de la population, que le gouvernement canadien s'est en fait trouvé complice de torture en Afghanistan, a cherché à cacher les faits à ce sujet-là, que le gouvernement canadien n'a pas respecté ses obligations internationales par rapport à des cas comme Omar Kader ou d'autres Canadiens qui ont été torturés à l'étranger. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont indigné la population. On en fait d'abord un rappel. Ensuite, on identifie que s'il y a la guerre ici, c'est pas seulement pour faire plaisir aux États-Unis, mais qu'il y a des intérêts qui sont servis par la guerre sur place ici au Canada, et en particulier le Conseil canadien des chefs d'entreprise qui a toujours préconisé un alignement à peu près total de notre politique étrangère sur celle des États-Unis. Un troisième aspect de la déclaration, c'est de rejeter totalement le discours de la soi-disant guerre contre le terrorisme. Alors, on considère que c'est une avancée parce que dans le mouvement contre la guerre ou le mouvement pour la paix, souvent on est réduit à des bons sentiments. C'est-à-dire on est contre la guerre, on est pour la paix, mais on n'identifie aucun coupable, on n'identifie pas des gens qui en profitent. Et d'autre part, on est un peu mal à l'aise avec le discours sur le terrorisme. Alors on n'ose pas trop dire que c'est un discours plus ou moins sérieux, qu'il manque de fondement, etc. Alors nous, c'est très clair qu'on n'est évidemment pas favorable aux attentats terroristes et on considère que la population devrait être protégée. Mais en même temps, si on regarde l'histoire, il y a eu des périodes où il y a eu beaucoup plus de terrorisme que ça. Il y avait des groupes officiellement considérés terroristes ici même au Québec, aux États-Unis, en France, en Italie, qui opéraient sur le territoire, à partir du territoire. Et la guerre contre le terrorisme n'était pas l'item numéro un de l'agenda mondial à ce moment-là. Alors, il y a une récupération qui a été faite, un usage de ça, une instrumentalisation. Alors, on explique en fait que ce qui s'est en train de se passer, c'est une expansion de l'Empire des États-Unis dans le monde, à la faveur du fait que les pays de l'Est ne sont plus dans le giron de la Russie, de l'URSS, à la faveur du fait donc qu'il y a plein de ressources naturelles qui sont maintenant potentiellement acquérables par les pays occidentaux ou contrôlables par les pays occidentaux. Alors, on parle du pétrole de l'Irak, mais on parle aussi du pétrole puis du gaz naturel de la mer Caspienne. Et l'Afghanistan, c'est dans cette région-là. En plus, il y a des pays qui refusent de se soumettre un peu au dictat des États-Unis, comme par exemple l'Iran, Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je soutiens le régime politique de l'Iran, mais ça veut dire que je soutiens le droit de n'importe quel pays de ne pas se plier aux volontés d'un autre pays et de faire ce qu'il veut. Et dans ces circonstances-là, bien, on voit que l'Iran est maintenant vraiment pris en sandwich entre l'Irak d'un côté et l'Afghanistan de l'autre, où les États-Unis ont des bases militaires, en fait, des deux côtés de ce pays-là, et ce ne sont pas des bases militaires temporaires, ce sont des bases militaires qu'ils projettent conserver à long terme. Donc, on dénonce la guerre contre le terrorisme. Et on demande également le retrait du Canada de l'OTAN. Alors ça, pour la grande majorité des organismes qui ont signé la déclaration, c'est une nouvelle prise de position. Cette question-là n'avait jamais auparavant été discutée dans les organismes, parce qu'on parle d'organismes syndicaux ou étudiants ou des groupes de femmes ou des groupes populaires, des groupes de développement international. En général, ils ne discutent pas de choses comme le Canada devrait-il être dans telle ou telle alliance militaire ou... Alors, on considère que c'est un grand pas, et les raisons de ça, c'est essentiellement que cette alliance militaire-là est en ce moment subordonnée justement à cette avancée-là de l'empire américain dans le monde, et on sert de force d'appoint, si on veut, dans cette avancée-là, et on cherche à en tirer des bénéfices marginaux, des bénéfices collatéraux, comme il y a des dommages collatéraux, entre guillemets, qui sont causés par les guerres. Alors, de ce point de vue-là, on considère que la déclaration est un grand pas en avant dans le fait d'avoir un discours un peu plus étoffé, solide, avec des revendications même sérieuse de la part du mouvement contre la guerre. Alors, ces revendications-là, on veut, un, qu'elles s'étendent. Alors, dans la prochaine période, on va recueillir beaucoup plus d'endossements d'organismes, y inclut des organismes locaux. On a, par exemple, le Conseil central de Montréal de la CSN ou le Conseil régional de la FTQ du Montréal métropolitain, mais là, on veut que les syndicats membres discute de ça. Parce que c'est bien beau d'avoir l'accord des gens qui sont au sommet des pyramides, mais on veut que ça représente vraiment le point de vue des gens à la base, et donc on veut que les syndicats locaux discutent de ça et adoptent à leur tour ce genre d'orientation-là. On veut faire signer ça par des individus, on veut recueillir des petites contributions financières avec ça et faire paraître cette déclaration-là en entier dans des pleines pages de journaux, le plus de quotidiens possible, selon la quantité d'argent qu'on va récupérer. Et au niveau politique, c'est clair qu'on va l'envoyer aux députés et tout ça, mais je dirais que l'important, c'est bien sûr de faire savoir ça, mais les politiciens le savent déjà, qu'il y a des coalitions contre la guerre dans le pays et qu'elles s'opposent à la guerre. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte que l'opposition de 70 % de la population au Québec se traduise davantage par des gestes, par des actions, par une indignation qui paraît. Et c'est difficile à faire. C'est difficile à faire, pas seulement parce que les gens trouvent que la guerre dure depuis longtemps et n'ont pas l'impression d'avoir de pouvoir, mais je dirais que le facteur numéro un, c'est probablement qu'il n'y a rien pour alimenter l'indignation. On la voit pas, la guerre. Voilà. On voit pas de victimes, on voit pas de morts, on voit rien de détruit, à part des soldats canadiens qui reviennent, et là, les gens se disent « Oh, c'est dommage, peut-être qu'on devrait se retirer parce que ça nous coûte des vies, mais... »
Et même derrière l'écran, on s'en habitue, donc c'est comme un film, quoi.
Oui, mais je veux dire, aux États-Unis, ça avait quand même joué un rôle assez important. Il y avait certains massacres dont il avait été fait état dans les médias, dans les journaux, à la télé, entre autres le massacre de My Lai au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, et c'est clair que les gens avaient été tellement horrifié par ces images-là qu'ils voulaient plus que les États-Unis continuent dans ce genre d'intervention-là. Et le Canada, je veux dire, n'a jamais eu autant de munitions achetées et tirées que maintenant. Et on ne tire pas ça dans les airs. On tire ça sur des gens, on tire ça sur des édifices, sur des maisons. On a des chars d'assaut là-bas, ils ne tirent pas sur rien. Et on ne voit pas la guerre. C'est une guerre invisible, sans effet autre que apparemment sur nous. Ça nous coûte cher et ça nous coûte des vies. Et on a des soldats qui sont estropiés et dont supposément on s'occupe pas assez. Ce que je ne nie pas, on s'en occupe pas assez. Ça fait partie de la politique canadienne. On paie très bien un jeune soldat qu'on va envoyer au front. Une fois qu'il est blessé, qu'il est estropié, il ne peut plus nous être utile, on dépense moins d'argent là-dessus. C'est plate, mais c'est exactement ça. C'est aussi... aussi dramatique que ça.
Monsieur Legault, juste peut-être vous poser une avant-dernière question. On parle beaucoup, on ne parle plus maintenant du retrait des militaires qui est planifié pour le juillet 2011. Et on parle plus de transformer la mission de combat en une mission humanitaire. Est-ce que ce nouveau langage ou ce nouveau discours vous dit quelque chose?
Ben d'abord, on n'en est pas dupe, on n'y croit pas du tout. Cependant, c'est clair que le choix de ce discours-là est délibéré de la part du gouvernement. Il pense peut-être que la population va être davantage ouverte à ce genre d'intervention-là. En pratique, ça ne peut pas se faire. Je veux dire, en pratique, il n'y a eu aucun développement sur le terrain réel parce que c'est une situation de guerre. Je veux dire, quand ça tire de partout et que les choses sont détruites, on peut pas prétendre qu'on est en train de construire quelque chose. Si on érige un édifice quelque part, il risque d'être la cible d'attentats ou quelque chose. C'est normal, c'est la guerre, c'est comme ça. Donc, il n'y a rien qui avance au niveau du développement comme tel. En plus, au niveau politique, on prétend apporter la démocratie, c'est la corruption totale là-bas. Et on encourage cette corruption-là. Cet argent-là, c'est de l'argent qui coule de tout l'argent qu'on donne. Et ce sont les collaborateurs, entre guillemets, qu'on a là-bas sur le terrain qui sont les grands responsables de ça. L'autre aspect, c'est que on a toujours eu une position à l'effet que l'aide humanitaire et le militaire devaient être totalement dissociés. Il ne faut pas que l'aide humanitaire soit apportée par des soldats, et il ne faut pas non plus que des gens qui font de l'aide militaire, de l'aide humanitaire, se mettent à jouer les mêmes jeux que l'armée sur place. Donc, ça ne doit pas être une espèce de carotte qui accompagne la répression et le bâton pour essayer de faire mieux passer notre présence là-bas. Il faut qu'il y ait une vraie, réelle indépendance. Et la seule aide qu'il peut y avoir dans les circonstances actuelles, c'est de l'aide d'urgence. On est en guerre. Il n'est pas question là, de se mettre à développer le pays sérieusement. Il peut être question de contrer certaines épidémies de maladies par des vaccins ou des choses comme ça. C'est des choses que l'UNICEF peut faire. C'est pas des choses que des soldats canadiens peuvent faire. Et tant qu'on entretient cette confusion-là entre l'humanitaire et le militaire, même ces gens-là, même la Croix-Rouge, ne peuvent plus opérer de façon sécuritaire parce qu'ils sont soupçonnés d'être de mèche avec les forces étrangères sur place.
Il y a des gens qui disent que comment, c'est presque impossible, c'est contradictoire même, comment pouvez-vous chercher la paix, de l'ordre dans l'anarchie? C'est-à-dire la présence militaire, elle est au-delà de elle est encore plus importante pour justement aller chercher la paix. Qu'est-ce que vous disiez? C'est-à-dire si on transforme la ligne de combat en ligne humanitaire, la présence des soldats, elle est indispensable. Si je...
La présence des soldats,
dans un pays chaotique. Hein.
La présence des soldats, elle est nuisible, elle contribue au chaos, elle en fait partie. Un des slogans de l'armée canadienne, c'est combattre le chaos, mais en fait, c'est plutôt répandre le chaos, parce que c'est ça qu'une guerre fait. Quand une intervention militaire est libératrice, oui, les populations le constatent de facto, l'attendent, la souhaitent, et ça se produit rapidement. Je veux dire, l'intervention des alliés, entre guillemets, lors de la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, ça a libéré l'Europe en quelques mois. Il n'a pas été question de prendre 9 ans pour gagner le cœur et les esprits des Européens. Je veux dire, ils savaient très bien qu'ils étaient sous le nazisme, qu'ils étaient sous la botte de dictature, etc. Et ils savaient qu'après le passage de ces armées-là, ce ne serait plus le cas, au moins pour ça. C'est clair que ça a introduit toutes sortes d'autres problèmes, mais en gros, la population souhaitait ces interventions-là. Et quand elles ont eu lieu, même si ça leur a coûté aussi beaucoup de sacrifices, beaucoup de vies et de la destruction supplémentaire, elle savait que c'était pour mettre un terme à ça. Alors que les Afghans de nos jours, c'est clair qu'ils ne pensent pas ça. C'est clair que leur point de vue n'est pas que ces forces-là nous sont bénéfiques. Si c'était le cas, on ne contrôlerait pas juste quelques faibles pourcentages du territoire afghan avec le gouvernement Karzai en ce moment. Ce gouvernement-là n'est pas crédible pour une grande majorité de la population. Ça ne veut pas dire qu'ils souhaitent un retour à ce qu'ils avaient avant sous les talibans, mais on n'a pas de contrôle là-dessus et franchement, on serait très, très, très prétentieux de constamment prétendre qu'on a la solution à tous les problèmes du monde. Qu'on regarde notre propre société, là, oui. On a des problèmes épouvantables qu'on ne semble même pas être capable de régler, le premier étant la corruption et on n'a même pas de commission d'enquête, même si la grande, grande, grande majorité de la population en veut. Et la grande majorité de la population veut aussi le retrait des troupes canadiennes d'Afghanistan et ça non plus, on ne l'a pas. Alors, on va s'occuper de ces problèmes-là, on va s'occuper d'avoir une société dans laquelle on a un peu plus de contrôle démocratique nous-mêmes. Et après, on pourra aider des gens qui, eux aussi, cherchent à prendre en main leur propre société. Mais pas prétendre que nous, on va aller là-bas leur apporter une solution. On va commencer par solutionner nos propres problèmes à ce niveau-là.
Monsieur Legault, on va faire une pause musicale et on va revenir avec vous, peut-être pour le mot de fin.
D'accord.
Des rivières de sang, le rougit dans ses yeux, le peuple est mécontent. Dans ses drames qui rentrent les armes du mal, de qui coule les larmes. Miséricorde à ces félins qui laissent veuves et orphelins. Vallée de l'angoisse, péché, enfant égaré, reine de la tristesse. Beaucoup trop de gens sont tombés, tour à tour nos pays sont bombés, les nôtres bombés. Jalousie et hostilité à Mundombe.
Je prends la trêve, mes rêves deviennent cauchemar. Une brève nouvelle du front, la sève du mal, coule fin de la trêve. C'est comme une jungle en slalom entre flingue et câble. L'homme crève parce qu'elle va bien faible pour les pentes. Je lève les yeux, m'élève vers les cieux. Dieu bénisse mon âme, préserve de la lame des envieux. Les drames et du feu, ça crame, je rime, rame entre le crime et les pleurs. Les fleurs fan la voix prime, les nous en mission pour le Seigneur. Des médiums et marabouts, des chiens enragés, de l'opium, le patron et de Moukouyou. Les orques jetés, tant de morts sur la jetée. Prier, crier de souffrance, mon corps veut lâcher. Je veux marcher auprès de l'éternel, ne plus me faire acheter et fuir les querelles. Dans un monde qui ne pardonne pas, sans foi ni loi, Tatanzambe, ici-bas, on a besoin de toi. Esprit, afin d'affermir notre foi. Le bon chemin est si étroit que sa lumière nous éclaire, afin que l'on soit sur la bonne voie. Au-delà des iniquités et des plaisirs charnels, puis son abysseau revient louer l'éternel. Les sept anges ici-bas ont bien reçu l'appel. Je prêche des quelques mots, les yeux rivés vers le ciel.
Louange à toi, Seigneur de l'univers. Guide-nous vers le droit chemin. Chemin de ceux que tu as comblé de tes faveurs. Prions avec ferveur, frères et sœurs. Sachez attendrir vos cœurs. Dans le jardin des hommes, que la foi bouleverse et gêne le pécheur. Qu'elle incite, qu'elle entraîne à se dépasser, qu'elle communique. Quelle que soit ta foi, un seul Dieu unique.
À mes propres yeux, je veux ma place dans le royaume des cieux. Tatanzambe, ta venue est proche, mes frères. Ouvrez vos cœurs ainsi que ceux de vos proches. Car dans sa droite, une longue vie. Sa gauche, la richesse, la gloire là-haut. Pas de mauvais esprit, ni de bleu, ni de blanc, ni de rouge. Le droit des millénaires se profiler, la jeunesse voit rouge.
Ça fait de moi, ça fait des mois que je me cherche. Pêche dans mes recherches, recherche en bas des portes, une brèche. À 100 milieux sous la merde, ça merde à chaque fois. Essaie de m'en sortir et 4 fois et hop pour 4 mois de folie. Échappe-toi du chemin, il me disait. Viens dans la lutte sur, appelle tes potes. La belle vie pour tout, j'assure à mail. J'ai su me relever alors que d'autres posent en paix. Je dois ma vie à une seule personne dans ce monde. Tatanzambe.
Thank you.
que M. Legault, comme peut-être votre dernière intervention, on veut savoir, est-ce que pensez-vous qu'au bout du tunnel, il y aura de la lumière?
Ça, c'est une question assez difficile. Moi, je ne suis pas le champion de l'optimisme, je dirais. Je dirais ceci, je veux dire, les interventions militaires qui ont lieu dans le monde et celles que notre Canada mène ne se font que par des êtres humains et avec la collaboration d'autres êtres humains. Si tout le monde décide qu'ils n'en veulent plus, qu'ils ne marchent plus dans ce genre de projet-là, ça va s'arrêter. Il n'y a rien, il n'y a aucun des problèmes qu'on crée l'humanité qui sont insolubles si on décide de vraiment s'y mettre. Toute la question, c'est justement à quel moment et sur quoi les gens interviennent. La guerre, c'est pas le seul sujet d'indignation de nos jours. Bon, la corruption, c'en est un. Les questions environnementales, bon, la destruction de la planète, le réchauffement climatique, tout ça. On sait que la majorité des gens sont pas d'accord avec le gouvernement Harper là-dessus. Le gouvernement Harper est négationniste sur ces questions-là. On considère qu'il n'y a même pas vraiment de problème. Mais c'est pas ça qui les amène à spontanément se lancer dans la rue quand ils entendent une déclaration de Harper qui est contre les objectifs de Kyoto ou des choses comme ça. Donc, ça prend une certaine dose d'indignation, ça prend des circonstances. En 2003, on avait ces circonstances-là. Si on avait 250 000 personnes dans la rue, c'est pas parce qu'on communiquait mieux à l'époque. C'est, la conjoncture était différente, il suffisait de mettre l'étincelle et le feu prenait, si on peut dire. Aujourd'hui, c'est pas ce genre de conditions-là. Alors nous, ce sur quoi on travaille, c'est plus à renforcer la réflexion de ce mouvement-là, ses revendications, etc., pour que, advenant un moment où vraiment la conjoncture est favorable à des grands mouvements, pour que ces grands mouvements-là ne soient pas uniquement fleurs bleues et revendications, la paix, mais demandent des choses précises et exigent des choses précises pour des raisons mieux comprises. Donc, c'est ce qu'on souhaite.
Mais la volonté du peuple, elle est là. Je pense qu'il n'y a pas de...
Oui, la volonté du peuple est là, mais quelle est l'importance de ces questions-là pour eux dans leur vie en ce moment? Voilà. Vous savez, en Angleterre, la population a toujours été contre la guerre en Irak, dès le début. Ouais. OK? Et le gouvernement Blair a été reconduit au pouvoir à plusieurs reprises avant la dernière fois où il a quitté, malgré cela. Pourquoi? Parce que c'était pas la question la plus importante pour la population.
Tout à fait.
Ils avaient une opinion défavorable à la guerre, mais somme toute, ils préféraient réélire Blair quand même pour d'autres raisons. Et donc, ça, ce jeu-là de quelle est l'importance de la question pour l'action, pour sortir, manifester, faire quelque chose, c'est difficile de le contrôler par la propre force de notre volonté. Ça dépend des circonstances. Et une de ces circonstances-là, moi, je dirais, c'est de voir la guerre, de voir l'impact de la guerre. Et une des choses qu'on peut chercher à faire, on a déjà fait venir la députée afghane Malalai Joya au Canada, bon, de chercher à faire en sorte qu'il y ait davantage de liens directs avec des Afghans ici, avec la réalité de ce pays-là. Peut-être chercher des reportages de pays asiatiques où les journalistes couvrent beaucoup mieux qu'ici
cette guerre-là. Pour que les gens sentent l'impact de la guerre,
pour que les gens sentent l'impact de la guerre et sachent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que nos milliards qu'on dépense contribue à semer comme destruction et comme zizanie et comme chaos dans ce pays-là. Tant qu'on n'aura pas ça, je pense pas qu'on va avoir un mouvement vraiment très très fort contre la guerre. On a une opinion contre la guerre, mais c'est pas suffisant.
Dernier mot, Monsieur Legault, mot solidaire, il vous dit quelque chose. Est-ce que vous avez un mot à dire pour le peuple, pour les citoyens québécois et québécois?
Ben, je pense qu'il est grand temps de mettre un terme à un ensemble de politiques qui sont menées en notre nom et qui sont contraires à ce qu'on veut, que ce soit au niveau environnemental, au niveau des droits de la personne, au niveau des bonnes mœurs, entre guillemets, dans la politique, et au niveau de notre intervention à l'étranger. La réputation du Canada est vraiment désastreuse en ce moment dans le monde, alors qu'elle était très bonne il y a quelques années. Et c'est parce parce qu'on est devenu, au niveau de la politique étrangère, un clone des États-Unis. Et même des fois en pire, parce que dans le soutien à Israël, on est même pire que l'administration Obama en ce moment. Et donc, je pense que les gens vont devoir réagir à ça sur un terrain ou sous un autre et faire une espèce de grand ménage pour exiger qu'il y ait une réelle démocratie ici. On élit des gouvernements, ils font ce qu'ils veulent pendant 4 ans et après on change pour parfois un autre qui refait exactement la même chose. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il faut que ce qu'on veut majoritairement soit mis en œuvre par nos politiciens. Et en ce moment, c'est tout le contraire qui se passe.
Merci, M. Legault.
Merci.
Faut jamais rien prendre pour acquis. Parce que tôt ou tard, la retourne. Et ça sert à rien de courir. J'ai les plaisirs, le sol, mes rêves guident mes pas. Donc si je veux, je vole au-dessus de mes tracas. Les gens qui me désolent, dans mes yeux ne les voient pas. Car c'est la vie qui donne ce que réserve à chacun. Peu importe ce qui m'a. Moi je m'en fiche, fiche. Et que les gens disent, disent que je suis folle. Je suis pas si naïve, mais je n'ai plus, plus le temps d'haïr. Moi je sais que la
voilà, chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Permettez-moi de remercier M. Raymond Legault, professeur au cégep antisique, d'abord pour son engagement et son dévouement à cette cause, puis pour cette entrevue accordée à Mage. Merci Marion Languet, technicien de son. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Et bien sûr, sans oublier Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. À moi, je vous dis, chères auditrices, chers auditeurs, à vendredi prochain, à la même heure. Merci.
Les jambes, oui, elle est loin d'être élégante. Elle tourne avec ou sans bâton dans les jantes. Dur de grimper la pente, si je dois percer. Les jaloux ne m'empêcheront pas d'exercer. Hey, si je me plante, ma liche, ça m'endurcit. Sans rancune, je vous dis merci. En plein exercice, la vie joue des tours. Frollo persiste, car la roue n'est
tout. Et la
ceci est un message de Campagne Québec Vie. Le pape Benoît XVI a annoncé qu'il célébrera le samedi 27 novembre une vigile pour toute vie humaine naissante. En plus, le pape a invité tous les évêques et les fidèles du monde entier à célébrer cette vigile dans leur diocèse. Pour plus de renseignements sur cette veillée de prière, appelez votre évêché ou contactez Campagne Québec Vie au 514-344-2686. 344-2686.
Vous rêvez de palmiers, de chaises longues? Ne cherchez plus! L'ATSA vous invite à son événement tout inclus de l'état d'urgence ultime édition. Du 25 au 28 novembre, 24 heures sur 24, sur la place Émilie-Gamelin, métro Berry, profitez de nos forfaits artistiques, dont une soirée avec les 7 doigts de la main et l'orchestre d'hommes orchestres. Gentils auditeurs, rejoignez-nous sur www.atsa.qc.ca et sur Facebook. Du 25 au 28 novembre, nos gentils organisateurs vous attendent avec des activités gratuites dont personne ne sera exclu.
Pour des milliers de gens, immigrer au Québec représente un passeport vers une nouvelle vie. Mais changer de pays n'est jamais simple. Parfois, l'aide d'un consultant en immigration peut s'avérer bénéfique. La Société canadienne de consultants en immigration réglemente les consultants en immigration et veille à la protection des consommateurs en s'assurant du respect des normes professionnelles. À compter du 2 février 2011, votre consultant en immigration devra être inscrit auprès du gouvernement du Québec et agréé par l'ASCCI. C'est la loi. Pour plus de renseignements, visitez-nous en ligne.
Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.